Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et comme chaque semaine, celui qui nous rejoint, Jean-Pierre Foultier, évidemment. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Curieux titre que celui de cette nouvelle série des chroniques culturelles de l'Europe sur Open FM, l'Europe, continent poétique. On aimerait en savoir évidemment un petit peu plus sur vos intentions.
C'est tout à fait légitime, Sébastien. Curieux, oui, j'en ai bien conscience, car l'adjectif poétique n'est pas celui que l'on associe le plus spontanément au mot Europe. Mais dans le vaste panorama de la culture européenne que j'essaye de développer sur cette antenne depuis plus de 4 années déjà, il est indéniable que la poésie que nous déclinerons sous toutes ses formes dans les 3 chroniques que nous lui consacrerons y tient et y a tenu une place majeure.
Et vous dites sous toutes ses formes.
Oui, car si le terme poésie reste très lié à des formes classiques qui, pour l'essentiel, nous ont été enseignées dans notre scolarité, une poésie de forme fixe avec strophes, vers et rimes, les termes poésie ou poétique sont parfois utilisés aujourd'hui pour s'appliquer à des objets qui suscitent l'émotion. J'ai entendu parler récemment de poétique de la bande dessinée.
Elle est partout.
Et si l'on remonte un peu dans le temps, dans l'Antiquité grecque que nous visitons régulièrement sur cette antenne, le terme de poétique y a un sens aussi assez étendu. Il était un quasi synonyme d'esthétique, notamment dans un ouvrage d'Aristote intitulé justement Poétique ou de la poétique, dans lequel il définit les principes qui, selon lui, doivent être ceux de la poésie, bien sûr, mais aussi et surtout de la tragédie. La poétique d'Aristote s'imposera de son temps, mais deviendra, à partir de la Renaissance, la référence suprême des poètes et plus tard d'auteurs de tragédies comme Racine. En fait, la poésie antique se réfère à 2 figures de la mythologie grecque, les 9 muses, qui représentent chacune un art, un savoir particulier, et Orphée, le musicien avec sa lyre, qui personnifie la sensibilité et l'inspiration divine. La poésie, c'est donc une parole plus ou moins savante, embellie par les vers du poète.
Et alors, est-ce que la figure du poète, c'est une spécificité européenne ?
Non. C'est une figure universelle que l'on retrouve très tôt autour de la Méditerranée, dans le monde pré-islamique notamment, où la poésie arabe, d'un grand raffinement, s'est dotée d'une métrique, c'est-à-dire de vers réguliers et de rimes. Des œuvres de poètes beaucoup plus anciens nous sont même parvenues de Chine, certains datant de 1000 ans avant Jésus-Christ, ou du Japon, où, au XVIe siècle, a été codifié ce haïku qui s'est fait ces derniers temps une petite célébrité en Occident. La poésie est aussi traditionnellement présente dans l'histoire de l'Afrique noire, mais elle est essentiellement de forme orale, celle des griots par exemple. Mais revenons en Europe où la figure du poète, à la fois homme inspiré et artiste du langage, s'est très tôt imposée, d'abord avec Homère, bien sûr, l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée, ses 2 épopées en vers, les 2 premières œuvres de la littérature occidentale. Le nom d'une poétesse nous est aussi parvenu, celui de Sappho, indissociable de son île de Lesbos. À Rome, le plus connu des poètes, c'est Virgile, l'auteur des Bucoliques et de l'Énéide, des œuvres considérées comme les fleurons de la langue et de la littérature latine, et qui influenceront les poètes de la Renaissance. Un siècle plus tard, un siècle après cette Renaissance même, un Jean de La Fontaine, lui, ira puiser chez des fabulistes de l'Antiquité, le grec Ésope et le latin Phèdre, des arguments qu'il s'appropriera et développera avec le génie que l'on sait dans ses fables.
Mais alors, quelle est la place du poète finalement dans ces sociétés ?
Le poète connaît en Europe au Moyen-Âge une véritable notoriété, notamment avec les troubadours occitans, comme Bernard de Ventadour, pas très loin de chez nous.
Eh oui.
On en retrouve l'équivalent dans les régions de Languedoc, au nord, puis dans tout le bassin méditerranéen, en Angleterre, en Germanie, en Hongrie, un peu partout en Europe. La littérature et le cinéma nous ont transmis l'image d'Épinal, de ces jeunes lettrés déclamant de château en château ou chantant en s'accompagnant du luth, des faits d'armes ou des poèmes d'amour courtois. À la Renaissance, le poète acquiert véritablement du prestige. La poésie, c'est l'art noble. En Italie, Pétrarque s'impose comme le grand poète lyrique moderne, chantant son amour pour la belle Laure, entrevue en 1327 dans une église d'Avignon. En France, deux siècles plus tard, ce sont Ronsard et les poètes de la Pléiade qui incarnent le renouveau de la poésie, mais aussi son attachement à ses origines antiques.
Et donc on a parlé de poètes italiens, poètes français, mais encore
des poètes anglais, bien sûr. Et même si le nom de William Shakespeare est associé au Hamlet, Macbeth, Roméo et Juliette et autres pièces de ce géant du théâtre de l'époque élisabéthaine, il ne faut pas oublier non plus qu'il est aussi l'auteur de sonnets qui ont connu de son vivant un vrai succès. Un XVIe siècle anglais marqué aussi par la vogue qu'a connue la chanson populaire dont beaucoup de poètes élisabéthains étaient les auteurs. Je vous en donne un exemple un peu plus ancien en vous faisant écouter Greensleeves, ce tube, on peut le dire ainsi, dont la légende dit que le roi Henri VIII l'aurait composé pour Anne Boleyn.
Donc pour ce Greensleeves.
Et pour terminer ce petit tour d'horizon de l'Europe poétique de ces 16e et 17e siècles, je donnerai deux exemples marqués par l'empreinte forte, j'en ai souvent parlé ici, du christianisme sur la culture européenne. L'Espagne catholique du 16e siècle est celle des poètes mystiques, avec la figure hors du commun de Thérèse d'Avila, dont les vers débordent d'une passion mystique dévorante, ou celle tout aussi illuminée de Jean de la Croix. En Allemagne, c'est la réforme luthérienne qui inspirera le poète Hans Sachs, que Wagner, au XIXe siècle, immortalisera dans son opéra « Les maîtres chanteurs de Nuremberg », comme il redonnera vie au chant des Nibelungen, la grande épopée germanique médiévale.
Voilà pour cette première prise de contact avec la poésie européenne. Mais alors qu'est-ce que vous nous réservez déjà pour la semaine prochaine ?
Je reparlerai justement de ce 19e siècle, le grand siècle romantique, de la poésie anglaise, de la poésie allemande et de la poésie française, bien sûr.
En rime et en vers, j'entends.
Bien, tout à fait.
Bah oui, on a une semaine pour bosser autrement. Le sujet, donc évidemment. D'ici là, bonne semaine Jean-Pierre.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.